9h28, notre invité ce matin, Sylvain Bruneau, qui est l'entraîneur, évidemment, à temps plein de Bianca Andreescu. Monsieur Bruneau, bonjour.
Bonjour.
Première question, êtes-vous revenu sur Terre après les derniers jours, disons, d'euphorie?
Ouais, ben disons que pendant 2-3 jours, peut-être, on était dans les nuages, mais là, on est bien revenu sur Terre, tout le monde. Tout à fait. C'était quelque chose, mais il faut revenir, l'entraînement reprend aujourd'hui.
OK, puis comment ça va se passer, l'entraînement, aujourd'hui?
Ben, c'est un entraînement un peu différent. C'est à 3 heures, c'est au centre national, au parc Jarry, sur le cours central. Puis on a ouvert l'entraînement aux médias, mais surtout au public. On espère qu'il y a des enfants qui vont profiter de l'occasion pour peut-être après l'école venir voir un bout d'entraînement, puis prendre des photos, autographes avec Bianca par la suite.
Puis l'entraînement, comment on revient à l'entraînement là, après une victoire comme celle-là?
Mais là, elle n'a pas rejoué. Elle a fait un peu d'entraînement physique depuis vendredi dernier, mais c'est une pause de 8-9 jours suite à sa victoire, évidemment. Donc, on va reprendre tranquillement, progressivement, seulement une séance aujourd'hui. Et puis, on va augmenter la cadence durant la semaine parce qu'il y a déjà un tournoi en Asie qui se pointe.
OK. Quand vous dites augmenter la cadence, donnez-moi plus de détails. Comment vous allez augmenter la cadence?
Bien, le volume, le nombre d'heures sur le terrain. Donc, aujourd'hui, ça va être une seule séance, peut-être à environ 2 heures. Parfois, les périodes d'entraînement, on va jusqu'à 4 heures de tennis. Donc, demain, ça sera un peu plus, mercredi aussi. Et puis, dans l'intensité d'entraînement, dans le volume de balles frappées aussi. Donc, c'est l'intensité et le volume de l'entraînement qui va augmenter un peu durant la semaine.
Avez-vous noté des choses qui méritent d'être corrigées, selon vous?
Ben oui. Il le faut, hein? Il le faut. Ça va de soi. Donc, je pense qu'au service, notamment, il y a du travail encore à faire sur certains types de services. Il y a des services qu'elle maîtrise très bien, d'autres moins bien. Et puis, elle a des forces en retour de service. On veut continuer de vraiment pousser ses forces. Et puis, pour ceux qui l'ont observé, c'est une joueuse très créative sur le terrain qui fait plein de trucs. Mais il lui arrive parfois de prendre des choix qui sont discutables. Donc, on va travailler un petit peu sur le plan tactique.
Quand on voit les matchs de tennis, on voit des entraîneurs qui sont pas loin, mais qui n'ont pas de contact avec le joueur ou la joueuse. Pourquoi il n'y a pas de contact? Au hockey, le gars, il revient au banc et on a le droit d'y... L'entraîneur peut y parler. Pourquoi pendant les pauses, il n'y a pas un moment où on peut dire à son athlète, écoute, là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire ou tu aurais pu mieux jouer?
Mais je pense que ça va avec l'histoire du sport, que ça a toujours été comme ça. Et puis, il faut dire, donc dans les grands chelems, il y a zéro contact. On sait s'il y a un signe ou verbalement, on peut avoir un avertissement et puis c'est la joueuse là, qui peut avoir un point de pénalité. Par contre, il faut dire que sur le circuit de la WTA, qui est un peu différent de ce qu'on avait à New York, qui était un grand chelem, on permet aux joueuses de demander à son entraîneur de venir une fois par manche pour discuter avec elle, lui donner des consignes, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'était fait pour rendre l'approche plus... pour les fans, que ce soit plus agréable de voir l'échange entre la joueuse et l'entraîneur.
OK. Vous êtes tombé en amour avec le tennis. De quelle façon?
Mes voisins jouaient au tennis, donc juste comme ça, pour aller jouer avec eux, avec mes amis. Et puis, c'était rapide. Je sais pas comment expliquer ça. Je passais des heures à taper sur le mur de l'école. Des heures, je ne m'attendais pas. J'avais juste envie de jouer au tennis. Et puis, finalement, il y a eu un club de tennis intérieur qui s'est ouvert à Repentigny. J'avais avoir 15 ou 16 ans. Et là, ça a facilité les choses parce que c'était possible de les jouer en tout temps. Auparavant, je jouais le samedi une fois par semaine pendant la saison hivernale dans un gymnase d'une polyvalente tout près de la maison. Et puis, c'était juste une histoire d'amour qui a commencé comme ça, un coup de foudre. Et puis, ça s'est jamais interrompu. J'adore le tennis. J'adore regarder le tennis. J'adore taper la balle. J'adore aider d'autres à jouer au tennis. Donc, c'est comme ça.
Puis, est-ce que... très rapidement, vous vous êtes dit, un jour, j'aimerais ça être coach, devenir entraîneur.
Ben oui, peut-être pendant quelques moments, je pensais d'être joueur.
Ça, c'est sûr.
Et ça, je me suis aperçu quand même assez rapidement que c'était pas dans les cartes.
Qu'est-ce qui vous manquait?
Ben, il manquait que j'avais commencé beaucoup trop tard. C'était très difficile. Déjà, et à cette période-là, au Canada, on n'avait pas vraiment les structures qu'on a aujourd'hui pour développer des joueurs de tennis, mais j'avais commencé trop tard, j'avais pas le niveau. Je suis devenu un bon joueur de tennis, mais pour espérer faire une carrière, c'était pas possible. J'ai pensé un peu d'aller à l'université américaine, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui le font, de Québécois, puis j'ai abandonné l'idée. Et puis, j'étais allé à l'Université McGill et rapidement, je me suis dirigé vers l'enseignement. Puis, j'ai trouvé mon compte. Malgré tout, j'aimais beaucoup enseigner. J'enseignais à des jeunes enfants au début, des adultes. Donc, c'était pas vraiment dans un cadre compétitif. C'était récréatif, mais j'aimais partager mon amour du tennis.
Vous entraînez des filles qui ont des profils très différents, des caractères. On peut penser à Eugénie Bouchard et Bianca. Vous l'avez dit souvent, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes traits de caractère. Donc, vous devez ajuster, j'imagine, vos méthodes d'entraînement. Il y a eu une époque où on disait qu'un coach devait être sévère, devait être dur, bon. Puis qu'aujourd'hui, ça marche moins, ces techniques-là. C'est vrai ou pas?
Ben, pour moi, c'est vrai. Mon approche initialement, j'étais beaucoup plus rigide, beaucoup plus strict, ferme comme entraîneur. Et puis avec les années, je ne sais pas si c'est le fait d'être père ou quoi que ce soit, mais je me suis adouci définitivement. Mon approche est beaucoup plus conciliante sur la communication. J'essaie d'avoir. Si je crois vraiment en mon idée, ben j'aime ça être capable de me dire, ben je devrais être capable de la vendre comme il faut, de l'expliquer pour que mon athlète dise, ouais, finalement, ouais, c'est vrai, c'est le bon plan. Donc c'est plus mon approche comme ça. Il y a des moments où il faut prendre une décision puis c'est comme ça, mais j'essaie vraiment d'être, ouais, je suis beaucoup beaucoup plus flexible que j'ai l'étais.
Plus dur avant, un peu plus raide.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai vraiment évolué. Puis aussi, les filles aussi avec lesquelles je travaille maintenant, c'est quand même des filles de très bon niveau qui ont aussi une idée de comment ça devrait se passer. Elles font confiance à l'entraîneur, mais parfois, si tu veux faire une journée, dire on s'entraîne ce week-end, elles peuvent dire ben, j'avais pensé peut-être samedi de faire un entraînement, voici pourquoi, et ainsi de suite. Donc, il faut être capable de discuter.
OK. À quel âge, là, j'imagine les parents qui nous écoutent, là, à quel âge vous dites je suis capable de voir le potentiel réel d'une jeune fille?
Ben, je pense qu'il faut surtout être prudent avec ça parce que moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs où on voit des joueuses, pas des Canadiennes, mais maintenant des joueuses américaines ou ailleurs qui sont sur le circuit, qui ont une super carrière. Puis j'ai voyagé à 15 ans, je pense pas qu'elle va y arriver. Donc, il faut être très, okay. Faut être très, très prudent avant de donner un verdict. Mais c'est sûr que déjà, l'âge de 10, 11, 12 ans, c'est possible d'avoir une joueuse qui, ou une athlète, c'est surtout ça qu'on essaie de déterminer à ce moment-là, de voir une petite fille ou un garçon qui a vraiment des qualités athlétiques, qui est très rapide sur le terrain, qui va faire des changements de direction ou qui est très habile avec la main, qui a une bonne dextérité. On sait que ça peut devenir difficile de développer ces qualités-là un peu plus tard lorsqu'on okay. avance en âge. Donc, mais on sait jamais, il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer le succès qu'il faut faire attention.
Notre invité ce matin, Sylvain Bruneau, donc entraîneur pour Tennis Canada. Comment on gère les parents?
Ben, ça dépend. Il y a des parents qui sont... Au tennis, je dois dire que les parents sont souvent impliqués. C'est un sport qui peut... Initialement, ça coûte des sous, et ainsi de suite. Puis, ne serait-ce qu'il faut déplacer son enfant. Donc, ça dépend. Il y a des parents qui sont... Ben, voici, je te fais confiance, puis on y va. Puis, il y en a d'autres qui sont plus près des choses. Encore là, je pense que c'est d'avoir une approche... axé sur la communication, mais où rapidement on est capable de faire comprendre aux parents que dans l'intérêt du joueur, du jeune, de l'athlète, ben c'est de faire confiance à l'entraîneur. C'est sûr, c'est un triangle, puis il y a toujours une relation qui se passe là, mais c'est un peu comme ça que je procède.
Autrement dit, il ne peut pas avoir 3-4 messages. Là.
Non, c'est sûr que ça, c'est pas la bonne solution. Ça crée du doute chez l'athlète, puis ça facilite rien. Et encore là, je vous dirais que dans mon approche a évolué parce que j'étais plus ferme aussi, même avec les parents.
Même avec les parents,
ouais. Ouais, même peut-être j'étais plus jeune, je voulais faire ma place, je ne sais pas. Maintenant, je suis ferme et je suis vraiment plus consignant, peut-être aussi le fait d'avoir des enfants, je ne sais pas.
Ce qui est arrivé avec l'entraîneur de ski, Bertrand Charest, est-ce que ça vous a amené à dire, là, il faut que je fasse attention, il faut qu'il n'y ait pas de confusion dans le message que j'envoie?
Oui, tout à fait. Je pense que même au niveau de la Fédération canadienne de tennis, Tennis Canada, il y a eu des actions qui ont été prises. Je pense que ça s'applique dans tous les sports et le tennis ne fait pas exception. On voit aussi quand même dans le milieu du tennis professionnel sur le circuit féminin quand même des joueurs qui ont des relations, c'est très clair, avec leur entraîneur. Donc, il y a beaucoup de temps qui sont passés ensemble et ainsi de suite. Mais,
Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils ont des relations?
Ben, je veux dire, c'est une réalité un petit peu sur le circuit professionnel que des entraîneurs avec des joueuses majeures.
Oui,
tout à fait. Donc, c'est comme ça. Avec les joueurs juniors, ben, je pense qu'il faut être prudent, c'est certain. Et puis, faut pas laisser place à aucun doute. Donc, l'approche est quand même différente, oui.
OK. On voit des jeunes filles qui arrivent sur le circuit international. Et je lisais un article, c'était un portrait de Serena Williams, et des gens qui disaient d'elle qu'elle avait donné tout un modèle, d'abord, à beaucoup de jeunes filles. Et que grâce à elle, il y a beaucoup d'adolescentes qui jouaient au tennis et qui même atteignent maintenant des niveaux très élevés.
Tout à fait. Tout à fait. Je pense que Serena Williams, elle a ouvert les portes pour plein de jeunes de couleur aux États-Unis et j'espère ailleurs dans le monde. Et on voit déjà, si on l'a vu aux internationaux des États-Unis, Coco Gauff, une joueuse de 15 ans, une américaine qui joue très bien, qui va être très forte. Et il y en a plusieurs. Il y en a vraiment une panoplie de jeunes qui montent, qui sont de couleur. Et ça, ben, je pense que c'est... on a Françoise Amanda aussi qui a été ici au Québec, qui avait été inspirée, entre autres, par les sœurs Williams, Venus et Serena. Donc, je pense que c'est définitivement une des belles traces que va laisser Serena.
Avez-vous l'impression que ça va être difficile pour des jeunes d'aujourd'hui de pouvoir dominer leur sport, un peu comme les sœurs Williams l'ont fait, pendant des années? Ou si on va voir Bianca pendant 2 ans hyper performée, puis whoop, il y en arrive une autre puis qui va peut-être la déloger?
Je pense que oui. Je pense que c'est devenu plus compétitif pour différents facteurs. C'est sûr qu'on a toujours eu au tennis des Chris Evert, Navratilova, Steffi Graf, ainsi de suite, des filles qui étaient vraiment dominantes. Là, évidemment, les Williams par la suite. Maintenant, c'est tellement compétitif. Il y a beaucoup, beaucoup. Ça se passe à travers, c'est international. Selon moi, ça va être plus difficile d'aller chercher des 20 grands chelems comme on a vu Serena le faire. Là, on sait qu'elle recherchait à avoir 24.
Ouais. Au niveau des bourses, on sait que bon, le grand chelem, les bourses, c'est le même montant homme-femme. D'autres tournois, des disparités. Êtes-vous d'accord avec ça, ces disparités-là, ou si les filles méritent autant que les gars?
Bien, j'aimerais dire que les filles méritent autant que les gars, tout à fait, c'est sûr. La façon que c'est expliqué, c'est les droits de télévision, les foules qui sont plus importantes sur les tournois masculins que sur les tournois féminins. Donc, il y a quand même une explication qui semble assez logique pour expliquer qu'il y a une différence. Mais dans le meilleur des mondes, je pense que ce serait bien que les bourses soient identiques, pas juste dans les grands chelems.
OK. Là, on s'en va évidemment à l'entraînement tantôt. Il y a la Chine qui vous attend plus tard. Puis après ça, c'est des vacances ou...
Mais là, c'est un tournoi en Chine.
Ouais.
On espère que ça va bien se passer. En ce moment, son objectif à Bianca, c'est de faire le tournoi de fin de saison, le championnat de fin de saison qui regroupe les 8 meilleurs au monde, qui est aussi en Chine. Donc, on va voir comment le premier tournoi ça va se passer à Pékin. Si elle joue bien, on espère que ça va être un seul tournoi. Elle a joué beaucoup de matchs. Et puis, on aura une pause. On va déterminer si on revient à la maison pour retourner en Chine. Si jamais ça se passe pas bien, mais il va falloir penser à peut-être trouver un tournoi entre les deux pour aller chercher les points qu'il faut pour se qualifier pour le tournoi de fin de saison.
Allez voir de prendre des vacances.
Tout à fait, bien sûr. Oui. Mais je dois dire que Tennis Canada est très conciliant et puis mon patron aussi, Lou Borfiga. Donc, entre les tournois et ainsi de suite, je suis capable d'avoir du temps de libre puis de passer ça à la maison.
Ben bravo. Merci beaucoup d'être venu, M. Bruno.
Très gentil, merci.
Sylvain Bruno, l'entraîneur de Bianca Andreescu. 9h41, on fait la pause puis on revient après pour le sujet de tribune téléphonique.